Dans le contexte des velléités américaines grandissantes par rapport au Groenland, plusieurs pays européens vont déployer des militaires dès lundi dans ce pays où il fait frais. Parmi eux, un officier belge. On en parle, vous en parlez Blaise, avec Tanguy De Wilde d'Estmal. Il est professeur à l'UC Louvain et il répond à vos questions.
Tanguy De Wilde d'Estmal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris aujourd'hui, hein, l'officier belge qui participe à la mission de reconnaissance internationale menée au Groenland est donc arrivé sur l'île. Ça a été annoncé par Théo Franken et Maxime Prévost. Une mission de reconnaissance qui a été annoncée en guise de réponse aux velléités du président américain Donald Trump de s'emparer de l'île arctique sous souveraineté danoise. Alors, on va évidemment parler de la big picture, comme on dit, mais premièrement, parlons du rôle de la Belgique. On sent que le gouvernement de Wever, notamment via Théo Franken, est très impliqué dans cette affaire du Groenland.
Mais oui, parce que normalement, on est dans quelque chose d'absolument banal. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des missions militaires à l'étranger et donc il faut envoyer un, deux ou trois officiers pour faire une reconnaissance du terrain, pour voir comment se déployer, s'il faut se déployer, voir les contacts utiles avec les partenaires étrangers. Je dis, en général, c'est tout à fait banal, on n'en parle jamais. Quand ça a lieu en Roumanie, on sait qu'on a eu des soldats en Roumanie, on en a aussi eu, par exemple, dans les Pays-Baltes, c'était lié à la guerre en Ukraine. Je dirais, on n'en faisait pas toute une exposition médiatique. Ici, évidemment, il y a eu la pression, puisque d'autres États ont tout de suite envoyé un petit contingent, et alors du coup, on s'est dit, mais la Belgique, que fait-elle? On a regardé ce que la Belgique fait, et on s'est dit, ah ben voilà, la Belgique... traditionnellement pourrait être en phase avec ses alliés, bien, va en reconnaissance pour voir d'abord s'il est nécessaire de mettre les soldats belges sur le terrain et puis de voir comment ça peut se faire en fonction de la spécificité du Groenland.
Mmh, oui. Vous parlez justement des autres pays. Outre les pays scandinaves, on a la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou les Pays-Bas et donc la Belgique. Alors on a évoqué le cas de la Belgique, mais on sent aussi que les Européens veulent taper du poing sur la table suite aux dernières déclarations de Donald Trump.
C'est-à-dire qu'ils ont pris Donald Trump au mot, puisqu'il se moquait des Danois en disant qu'il n'avait pas renforcé la sécurité du Groenland, si ce n'est en commandant un traîneau à chien. Et c'est pour montrer, ben voilà, nous sommes capables, dans le cadre d'une coopération européenne qui n'implique jamais tous les États membres, de déployer une mission sur ce terrain, et pour vous montrer que ce terrain n'est pas en train d'être l'objet d'appétence russe ou chinoise qui aurait mis la main dessus.
Oui, c'est d'ailleurs les mots utilisés par Maxime Prévost autour de la Russie et la Chine. Qu'est-ce que Donald Trump recherche, en fait, avec le Groenland?
Alors, depuis le début, il est dans une tradition. Il faut dire qu'il n'est pas le seul président à avoir proposé d'acheter le Groenland. Le dernier avant lui, c'était le président Truman, pour évidemment si on regarde une carte, l'idée que le Groenland est une espèce de passage direct par le haut, en quelque sorte, presque entre la Russie et les États-Unis par ce côté-là. Il y a aussi l'autre côté, par le détroit de Bering, et aussi que c'est un point essentiel pour l'Arctique, étant donné que l'Arctique, avec le réchauffement climatique, permet des passages et permet éventuellement des exploitations. Donc c'est un point particulièrement important, qui était très important pendant la guerre froide, mais il y avait beaucoup plus de bases militaires américaines d'ailleurs qu'aujourd'hui. Donc ça a toujours été un point important, mais la différence, c'est que finalement, Donald Trump en revient aux États-Unis du 19e siècle, aux États-Unis du 19e siècle, qui faisaient pression sur certains voisins, comme le Mexique, pour acheter ou bien pour acquérir ou bien pour annexer les territoires, pression sur l'Empire, ce qui restait de l'Empire espagnol, pour acheter par exemple la Floride, sans parler de l'achat de l'Alaska également à la Russie en 1867. Donc ça, c'était une pratique du 19e siècle. Et comme c'était un homme d'affaires qui est au pouvoir, pour qui tout est transactionnel, il en revient à ses pratiques. Et c'est pour ça qu'il explique que maintenant, ce n'est plus la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, c'est la doctrine Donroe, même si ça ne concerne pas le Groenland, mais c'est pour dire, voilà, d'une certaine manière, il règle les affaires dans le continent américain, ce qui explique l'attitude à l'égard du président du Venezuela.
Il en avait déjà parlé en 2020, hein, du Groenland. C'est donc une idée qui germe dans sa tête depuis son premier mandat. Est-ce que, selon vous, il a des chances de parvenir à ses fins?
Mais je ne pense pas. Je pense que, très habilement, Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, lui a téléphoné, ils se sont peut-être donné rendez-vous même à Davos, Et il y a l'idée de dire qu'il obtiendra satisfaction sans obtenir l'achat du Groenland. Hein. C'est un peu comme quand il tapait des poings sur la table du côté de l'OTAN en disant il n'y a pas assez de contributions européennes en ce qui concerne l'effort militaire. Et Marchais lui a dit, mais vous voyez, grâce à vous, enfin son prédécesseur Stoltenberg aussi lui a dit, vous voyez, grâce à vous, finalement, il y a un accroissement de la part du PIB consacré au budget militaire au sein des États membres. Et ici, il y aurait moyen de lui dire, vous voyez, grâce à vous, le Groenland, dont personne finalement n'avait pris l'importance, si ce n'est vous, alors il faudra un peu le flatter. Et bien maintenant, vous voyez, donc on en renforce la sécurité et on pourrait le faire ensemble dans le cadre de l'OTAN. Voilà, ça, ce serait une sortie de crise par le haut, mais enfin, d'ici là, peut-être qu'il y aura encore des poussées de fièvre. Avec Donald Trump, on sait bien que ce qui est prévisible, c'est l'imprévisibilité du comportement de ce dirigeant.
Ouais, venons-en maintenant à l'Union européenne. Elle est challengée, elle est mise à mal, peut-être même par Donald Trump, d'un côté sur le front ukrainien et puis maintenant sur le Groenland. On a tout de même l'impression que ce soit du côté de l'Ukraine et maintenant sur le Groenland, que ces coups de pression du président américain fonctionnent et resserrent les liens entre les différents pays européens.
Mais oui, parce que c'est la seule force qu'on peut avoir, c'est notre force économique, hein, du côté des 27. Et donc, on a intérêt à avoir un front uni. Quand il y a des menaces de droits de douane, on a intérêt à trouver des compromis par rapport à cela. Et donc, pour que, surtout, ils ne puissent pas jouer la division des Européens en menaçant certains États, qui, comme il a fait d'ailleurs, hein, certains États qui sont présents au Groenland et pas d'autres. L'idée, c'est de nous montrer qu'il y a une politique commerciale commune et que donc les questions doivent être réglées de cette manière-là. L'intégration européenne se fait toujours par des pressions exogènes. Ici, paradoxalement, on ne pensait pas qu'elle viendrait de là, mais il y a une pression qui vient des États-Unis.
Ouais. Tanguy de Wilde-Desmal, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Avec plaisir.